Isabelle Moncada, c'est à vous à présent. Vous êtes venue nous dire que l'on peut rajouter le travail à la longue liste des addictions.
Eh bien oui, exactement. Il y a des addictions qui concernent les substances et celles qui ont trait au comportement, comme l'addiction au jeu, au sexe, à la nourriture ou eh bien au travail, c'est possible aussi. Ouais. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que les neurosciences ont permis de montrer que ce sont exactement les mêmes mécanismes qui interviennent en fait dans toutes ces addictions. En dépit du regard scientifique, on continue quand même à faire des catégories morales avec ces addictions.
Oui, c'est-à-dire qu'elle est bonne et elle est mauvaise addiction.
Ouais, c'est ça. Du coup, c'est vraiment difficile de se faire aider, soit parce qu'on a honte de dire qu'on souffre d'une addiction, soit à l'inverse parce qu'on en est un peu fier. La difficulté avec l'addiction au travail, effectivement, c'est un peu pareil d'ailleurs avec l'addiction au sport, c'est que contrairement aux autres addictions comportementales comme le jeu ou le sexe, il n'y a pas de valeur négative ou moralisatrice qui lui est associée. En fait, au contraire, le forçat du travail, c'est un peu une sorte de figure héroïque de l'époque moderne, on peut dire.
Mais d'ailleurs, de nombreux accros au boulot fonctionnent très bien. En tout cas, dans un premier temps, j'allais dire.
Ouais, jusqu'à ce que leur corps, en fait, exprime ce que leur esprit ignore, c'est-à-dire jusqu'à ce leur corps leur dise stop, c'est trop. Parfois, c'est une petite alerte qui met un terme à la course folle. Puis parfois, c'est plus grave, genre un infarctus, un burn-out ou un autre problème de santé. On sait aussi que ça peut déraper du côté de l'abus de médicaments. On connaît tous les gens qui utilisent des substances dopantes ou même plus, quoi, des amphétamines, de la cocaïne. Et puis souvent, c'est utilisé en parallèle avec des somnifères pour tenir un rythme qui devient vraiment inhumain.
Ouais. Et il y a très peu, presque étonnamment, très peu d'études scientifiques sur les mécanismes qui sous-tendent vraiment ce comportement addictif.
C'est vrai, mais ça commence. Maintenant qu'on reconnaît et qu'on les met toutes ces addictions sur un même plan du point de vue de la science, eh bien on progresse aussi sur la compréhension des mécanismes. La définition de l'addiction que propose l'OMS, c'est un comportement qui induit une compulsion et la continuation de ce comportement en dépit des conséquences négatives. Et on voit que ça s'applique à tout, y compris au travail. Et donc, on doit considérer la dépendance au travail avec le même sérieux qu'une dépendance à une drogue, puisqu'en fait, elle correspond exactement aux mêmes critères.
Et c'est comme pour l'alcool et le reste, c'est-à-dire qu'il faut augmenter la dose pour obtenir le même plaisir.
Exactement. Et comme pour toutes les autres dépendances, vous allez commencer par avoir une période d'euphorie, une sorte de lune de miel. Vous vous sentez bien, vous vous dites « je maîtrise », vous vous sentez fort, vous êtes capable de tenir plus longtemps que les autres, de faire plus que les autres. Et puis, évidemment, on vous admire, votre estime de vous-même, elle est boostée. Et vous avez plein de bénéfices et de retombées positives, de retombées extraordinaires. Et puis, si vous essayez de diminuer, de travailler un peu moins, eh bien, vous allez développer les symptômes typiques du sevrage, c'est-à-dire de l'anxiété, un mal-être, un état de stress. Bref, ce que décrivent tous les dépendants quand ils essayent de diminuer ou d'arrêter.
Alors, à 36.9, vous avez rencontré des témoins qui étaient dans ces situations, qui surfaient à la limite de leur équilibre familial, social, à la limite de leur santé, toujours un peu sur le fil du rasoir. On va entendre un extrait de l'histoire d'Alain Salamin et de sa famille.
La notion de culte de la performance était très présente, parce qu'il y avait notamment, bien sûr, tout l'aspect professionnel, où il faut être performant, il faut montrer l'exemple, il faut arriver avant les autres, il faut partir si possible après les autres, il faut toujours être là, toujours être présent, toujours être au taquet, il faut avoir la niaque. Il y a le culte de la performance au niveau sportif avec la patrouille des glaciers. Et puis, il y a peut-être aussi un culte de la performance au niveau de la famille. 5 enfants, arriver à gérer tout ça, l'image qu'on donne par rapport à ça, c'était beaucoup effectivement lié à la performance.
Et comment vous avez eu quoi avec maman?
Wow. Il était toujours au travail. Il n'était jamais ici.
Il travaillait beaucoup ?
Oui, le soir il revenait. Très 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 tard.
Ouais, c'est bien. J'étais là avec les enfants le soir, mais en fait j'étais pas vraiment là. Et ça c'était peut-être la chose la plus dure pour moi, c'est que j'arrivais pas à déconnecter.
Et je pense qu'on est... On est un peu des survivants. C'est arrivé qu'on se hurle dessus. Je me disais que peut-être qu'il m'entendrait. On a des souvenirs où j'essayais d'appeler à l'aide en lui disant « mais tu te rends pas compte ?» Et puis, il n'entendait pas. Je pense qu'il savait au fond de lui, mais c'était pas possible.
Je me sentais complètement emprisonnée. Dans une situation où je voyais pas d'autre issue, quitter le travail, c'était pas une option, parce que d'un point de vue financier, c'était pas possible. Quitter la famille, c'était pas une option non plus, parce que c'était quelque chose de très important pour moi. Et puis d'arrêter de faire du sport, ça m'aurait complètement déséquilibré aussi. Je me débattais, j'essayais de faire ce que je pouvais, mais je voyais aucune issue. Et donc, en ne voyant aucune issue, ben, qu'est-ce que je faisais? Je continuais. Je continuais à faire toujours plus de ce que je faisais pour essayer de trouver un équilibre qui venait jamais.
Bon, à 50 km/h, il fait moins 20 degrés. Puis t'as quelqu'un qui tombe dans une crevasse.
20 mètres, ouais, ça fait deux fois.
Ah, j'ai fait des incantations sur le balcon. En demandant à l'univers qu'il arrive quelque chose, c'était terrible. Je me rendais compte en faisant ça. Je me disais, il faut qu'il arrive quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose physiquement, de pas trop grave, s'il vous plaît, mais il faut qu'il se passe quelque chose.
Alors Isabelle Moncada, que s'est-il passé pour cette famille ?
Eh bien, d'une certaine manière, Madame Salama a été entendue, elle a été exaucée, c'est-à-dire qu'Alain a eu un problème de santé, un décollement de la rétine, ce qui est grave parce qu'il a failli perdre la vue. Mais cet épisode l'a obligé à passer du temps couché sur le ventre, sans bouger, pour permettre à sa rétine de se rétablir. Et puis, eh ben, pendant cette période, il a vécu une sorte d'introspection, il n'avait pas le choix, et une sorte de méditation forcée qui lui a permis de faire le point et de prendre conscience qu'il risquait plus grave encore s'il ne changeait pas quelque chose dans sa vie. Ce qu'il a fait, il a réorienté sa carrière. Alors évidemment, son revenu a beaucoup baissé, mais sa qualité de vie, elle, a sacrément augmenté. Et puis, il a aussi, dans le même temps, réussi, ce qui est quand même une performance, à stopper le sport extrême. Il a dû prendre des mesures, mais il a réussi. Et puis, il a fait ce qu'il fallait à temps, en fait.
Oui, à temps, c'est-à-dire avant d'avoir un problème de santé encore plus grave, genre burn-out ou infarctus, ça arrive souvent, ça.
Ouais, oui. Et puis, c'est très important de prévenir ces crashs parce qu'on s'en remet très difficilement. Et puis, évidemment, on peut garder des séquelles irréversibles, d'un infarctus, par exemple. Mais la difficulté, c'est qu'on peut tous être amené à travailler beaucoup ou beaucoup trop pendant un certain temps. Ça se complique, en fait, quand le travail devient la norme, qu'il se transforme en mode de vie, qu'il envahit tout. Et puis, on peut, à ce moment-là, perdre le contrôle.
Mais comment savoir si l'on souffre d'addiction au travail? Est-ce que consacrer 10 heures par jour à son boulot, c'est déjà pathologique? Et puis, comment déterminer si on court un risque?
Oui, ça, c'est la difficulté. Il n'y a pas vraiment de normes. Hein. Ça ne se mesure pas en nombre d'heures qu'on passe au travail. C'est plutôt l'espace psychique que ça occupe. Si vous ne pouvez pas penser à autre chose, que vous ne parvenez pas à vous intéresser à autre chose qu'au travail, si votre cerveau finit par considérer le travail comme quelque chose d'aussi vital que de boire ou manger, eh bien, si c'est aussi puissant que ça, en fait, ou aussi irrépressible, on pourrait dire que les besoins vitaux, c'est là qu'il y a un problème, qu'il faut vous dire que ça ne va plus. Quand les choses sont moins nettes, évidemment, c'est plus difficile à déterminer, mais il existe quand même des critères scientifiques qui permettent de déterminer si un accro au boulot met sa santé en danger. C'est en 1971 d'ailleurs que le terme « workaholisme », comme l'appellent les anglo-saxons, a été décrit pour la première fois dans des travaux scientifiques. Et puis ces 40 dernières années, bien, il y a différents outils d'évaluation qui ont été élaborés. Le plus récent et le plus sensible probablement, c'est le plus fiable en tout cas, c'est qui est actuellement utilisé par les médecins, c'est ce qu'on appelle le test de Bergen, parce qu'il a été mis au point et validé par des chercheurs norvégiens de l'université de Bergen et auprès de plus de 12 000 salariés. Donc il est vraiment, c'est un outil qui a été très très affiné. On en trouve une version un peu simplifiée sur Internet, mais évidemment, c'est beaucoup mieux de se faire évaluer et de passer ce test avec un médecin qui va faire une investigation globale.
Oui. Alors, avant d'aller chez le médecin, bah vous regardez 36.9 ce soir.
Exactement.
Pour savoir si vous êtes ou non addict au travail. Donc, c'est ce soir à 20h10 sur RTS1. Ça, c'est le premier reportage. Puis, un deuxième reportage qui est consacré...
C'est un peu le même thème, hein, mais c'est sur les enfants et le sport intensif. Au fond, quel effet ça a sur leur croissance et à partir de quand ils prennent des risques pour leur santé en... Au fond aussi, c'est la difficulté d'évaluer quand l'entraînement est bénéfique puis quand il commence à devenir délétère pour la santé.
Très bien. Bon, on se réjouit de vous retrouver ce soir à la télévision, Isabelle Moncada. Merci d'être passée par CQFD.
Merci à vous. Bonne journée.
Une belle journée. Merci, à tout à l'heure.
CQFD sur la première.